Nous sommes toujours dans le deuxième et troisième chapitre, qui sont des chapitres qui contiennent les lettres aux sept églises de l'Apocalypse, des genres de email de Dieu, des Gmail de Dieu, des Godmail aux sept églises de l'Apocalypse. Et nous avons fait une sorte de croisière, voilà la série sur l'Apocalypse, c'est la cinquième prédication. À Éphésus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, et nous avons fait donc une petite croisière, même si toutes les villes n'étaient pas au bord de la mer, hein, mais on a vu la lettre à Éphèse avec l'église qui a perdu son premier amour, l'église où les chrétiens qui ont perdu leur premier amour, Smyrne. Je fais plus d'interro parce que c'était un échec la semaine dernière, mais c'était l'église en souffrance, lettre à une église en souffrance. Et puis on a laissé tomber Pergame, Thyatire et Sardes, c'était peut-être intéressant, mais voilà, on peut pas tout faire. Philadelphie, l'église des portes ouvertes, des occasions de servir Dieu, d'avancer dans la vie spirituelle. Et puis maintenant nous sommes rendus à Laodicée. Tout un tour, on se souvient que dans Apocalypse, le premier chapitre, le chapitre 1, il nous est dit que Jésus marche au milieu de ces églises, qui sont symbolisées par des chandeliers. Il marche, quel que soit l'état, la situation de cette église. Et il parle aussi à l'église qui est dans la bonne ville de Laodicée. Laodicée, c'est le nom de l'épouse du fondateur de la ville. Il a donné le nom de son épouse à cette ville, Laodicée, avec E, c'est un nom féminin. Et c'est Jésus qui parle, on veut s'en souvenir, à l'église de Laodicée, qui nous parle encore aujourd'hui, nous, église de Cannes, et chrétiens qui faisons partie, qui sont des membres de cette église de Cannes, l'église dans la ville. Alors que va dire Jésus à l'église de Laodicée ? Eh bien, nous allons le lire ensemble avec un petit rappel de ces différentes églises, avec en copier l'église de Thyatire, Pergame et Sardes, en copier parce que les lettres, comme l'Apocalypse, seront lues dans toutes les églises. Et donc, elles ont eu une copie. Alors, Apocalypse 3, versets 14 à 21. À l'ange, au représentant de l'église de Laodicée, écrit « Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen. » Dans une autre traduction, c'est le « Oui de Dieu ». Le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu, « Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil, achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité. Et achète aussi un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône comme moi-même. Je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire sur la croix et par la résurrection. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est un peu vigoureux, hein ? Nous allons prier. Seigneur, Merci pour le privilège que nous avons d'entendre ta parole, même dans toute sa vigueur. Et elle est là, Seigneur, comme Paul le dit à Timothée, pour redresser, pour réfuter, pour convaincre. Et parfois, ça nous bouge. Donne-nous, Seigneur, par ton esprit, de la recevoir. Guide-moi, Seigneur, pour dire les mots qui conviennent. Merci pour le privilège que nous avons d'entendre cette parole, tout le conseil que tu veux nous adresser ce matin. Que ton esprit traverse nos cœurs et se saisisse de la parole pour l'imprimer dans nos cœurs. Au nom de Jésus qui marche au milieu de ses églises, qui est présent au milieu de nous ce matin. Amen. Alors pour commencer, on va faire un petit peu d'histoire, géographie, pour parler un petit peu du contexte de cette église-ville de Laodicée, et pour montrer aussi que Dieu s'adresse à nous en tant qu'individu dans notre contexte géographique et dans notre histoire. Alors d'abord, Jésus me dit à cette ville et à cette église, « Tu dis que tu es riche ». Ou que tu es devenu riche, et effectivement, Laodicée s'en sortait pas mal au niveau de la balance commerciale, au niveau du PIB, du produit intérieur brut. Géographiquement, elle commandait 3 routes commerciales à l'ouest, vers la côte, vers le nord-ouest, via Sardes et Philadelphie, et vers l'est, ou l'intérieur des terres, nous dit-on, jusqu'au fleuve jaune du Pendjab et de la mer de Chine même. La position, dit un auteur de Laodicée, faisait d'elle l'un des centres commerciaux les plus riches de l'Antiquité. C'est une ville opulente. Avec le petit poisson Ictus, avec une belle cravate, tout va bien pour elle. C'est une ville de banquiers aussi, parce que dès qu'il y a une ville opulente, ça attire les banquiers quand Cicéron, cet orateur, cet homme politique romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, voyage en Orient, on est dans la Turquie actuelle, c'est à Laodicée qu'il encaisse ses lettres de crédit, qu'il encaisse son argent, à Laodicée, parce qu'il y a des banques, c'est un peu la City ou la Défense. Cette ville et cette église ont de quoi financièrement parlant. Et alors, autre chose aussi, cette église, cette ville, parce qu'elle a de quoi, proclame à qui veut l'entendre qu'elle n'a besoin de rien. On se souvient, je n'ai besoin de personne, en Harley Davidson, c'est chanté par Brigitte Bardot, c'est un petit peu le leitmotiv aussi de Laodicée, je n'ai besoin de rien. Elle a été soumise, la ville de Laodicée, à plusieurs tremblements de terre, en l'an 16 et 60, et elle a été reconstruite par ses propres moyens, sans faire appel à de l'aide extérieure. Même sous Néron, elle refuse l'aide impériale. On n'a pas besoin de Rome. On s'occupe. On a ce qu'il faut. On est autosuffisant. Et on a retrouvé plusieurs constructions de Laodicée. Cette phrase, sur ces différentes constructions, cette phrase gravée dans la pierre, par nos propres forces. Ek ton hidion, en grec. Hidios, en grec, ça veut dire propre. Idios. C'est marrant. Bon, propre force, par nos propres forces. Et cette ville, et peut-être cette église, à l'image de la ville, est autosuffisante. Et quand on est autosuffisant, le risque est grand de devenir suffisant. Méprisant et aveugle sur ses propres besoins. Et quand on connaît un peu le contexte, on comprend alors le vocabulaire, et en particulier quand Jésus donne à cette église ce conseil, achète. Au mot achète, les banquiers de la ville, les commerciaux de la ville ne font qu'un bon. Et ils pensent investissement, acheter dans de l'or, nous dit la parole, valeur refuge, véritable richesse, de l'or pur, éprouvé, à toute épreuve, et qui a fait ses preuves. ou des vêtements blancs, et puis dans un collyre, tiens, un collyre, pour les yeux. Qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire? Pourquoi un collyre? Eh bien, il faut savoir qu'il y avait une école de médecine à Laodicée, qui était connue pour deux produits, Galien, un médecin grec du IIe siècle après Jésus-Christ, qui a exercé à Pergame, pas trop loin, et à Rome également, nous parle de deux spécialités laodicéennes, un onguent pour les oreilles et un collyre pour les yeux. Et ce collyre de Laodicée était vendu à travers tout l'Empire romain et faisait la réputation de Laodicée et révélait aussi un contraste extraordinaire, une ville qui prétend guérir de la myopie physique mais qui est aveugle à sa propre cécité spirituelle. Ne vois-tu pas que tu es nu, aveugle, pauvre, fragile, pitoyable, misérable? Alors Jésus dit, achète ce qu'il faut parce qu'il y a un problème. Il y a un problème chez toi et c'est un problème d'eau. C'est une histoire d'eau. Et le problème avec l'eau à Laodicée, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de source d'eau à Laodicée, ni dans les environs immédiats. Donc ils la font venir, l'eau de Hiérapolis, à travers un aqueduc qui fait 10 km de long. Et l'eau de Hiérapolis, elle fait 95 degrés. C'est de l'eau chaude à Hiérapolis. Mais le problème dans ces 10 km, bon, le calcaire a le temps de se déposer dans l'aqueduc. Mais l'eau à Hiérapolis, à Laodicée, arrive tiède. Les eaux de Colosse étaient froides, paraît-il. Celles de Hiérapolis étaient chaudes. Celles de Laodicée sont tièdes, sont tiédasses. Dans les Pyrénées, dans la vallée d'Ossau, pas très loin de notre petite maison, il y a un petit village qui s'appelle Eau Chaude. Et un petit peu plus loin, un autre village qui s'appelle Aubonne. C'est toutes des stations thermales. Il y a beaucoup de thermalisme dans les Pyrénées. Il n'y a aucun village qui s'appelle Eau Tiède. Ça n'intéresse personne, l'eau tiède. Il ne faut même pas l'inventer, l'eau tiède. Le problème, c'est l'eau tiède. Et on pourrait se poser plusieurs questions par rapport à la tiédeur. Et la première est de savoir si la tiédeur est quelque chose de grave. Et la tiédeur, c'est grave, docteur? Après tout, l'eau tiède pourrait servir et pourrait être utile à quelque chose. Au quotidien, vaut mieux un petit peu d'eau tiède. Mais on peut laisser de côté la métaphore de l'eau et on revient au texte. En parlant de tiédeur, Jésus va utiliser un mot fort, un mot grave, « je te vomirai de ma bouche », qui nous parle d'un dégoût, ou même pire, d'un rejet. Et un bref survol de la parole de Dieu, de cette parole toujours actuelle et vivante, nous montre bien que le tiède, celui qui est mi-figue, mi-raisin, celui qui est entre deux eaux, celui qui a le cœur partagé, celui ou celle, n'est pas franchement encouragé. On lit déjà dans Ésaïe 29, « Le Seigneur a dit à ce peuple, il n'est proche de moi qu'en parole, c'est du bout des lèvres qu'il m'honore, mais de cœur, il est loin de moi. Le respect qu'il dit avoir pour moi n'est qu'une tradition humaine, une leçon apprise qu'on récite. » Et Dieu rejette ce peuple tiède. Et quand Jésus parle à ses disciples de leur engagement en tant que disciples, après lui, il va utiliser une autre métaphore, le sel. Et qu'est-ce qu'il va dire sur le sel? C'est dans... Alors, j'ai oublié de mettre le texte d'Ésaïe. Le texte de Luc 14 arrive. « Le sel est une bonne chose, dit Jésus, mais s'il devient insipide, Comment lui rendra-t-on sa saveur? On ne peut plus l'utiliser ni pour la terre, ni pour le fumier. Il n'y a plus qu'à le jeter. Celui qui a des oreilles, entende. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. On s'aperçoit que c'est la même formule que dans l'Apocalypse, pour chacune qui termine chacune des lettres aux sept églises de l'Apocalypse. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et quand on entend bien ce que Jésus dit dans l'Évangile de Luc, on se dit que perdre sa saveur, comme le sel, ou devenir quelqu'un de tiède, ce n'est pas quelque chose, et c'est un understatement, n'est pas très intéressant aux yeux de Jésus, même que c'est assez lamentable. Et si on comprend bien, le sel sans saveur risquerait même de gâcher le fumier. On ne peut plus l'utiliser ni pour la terre, ni pour le fumier. Le sel insipide qui perd de sa saveur, il n'est même pas utile pour avoir du bon fumier. Ça la fout mal. Surtout qu'il ne reste plus qu'à le jeter dehors. Un auteur a parlé de cette phrase de Jésus, de cette métaphore de Jésus tellement forte, grave, dérangeante, crispante. Et ça m'a parlé quand je l'ai lu, il a dit « Qui a envie d'entendre Jésus nous dire que nous allons gâcher le fumier ?» Qu'on a perdu tant de goût et de saveur que même dans le fumier, on n'aurait pas d'utilité. Qui a envie d'entendre ça? C'est grave, docteur? Oui. Quand même un peu, si on considère que les paroles de Jésus font autorité dans la vie. Et moi, je le considère. Ce ne sont pas juste des paroles en l'air. La tiédeur, grave? C'était la question 1. Question 2, la tiédeur, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, je vais laisser intervenir un auteur qui s'appelle Francis Chan. C'est pas Jackie Chan, ça c'est le kung-fu. C'est Francis Chan, c'est un pasteur né en 1966, un peu plus jeune que moi. Mais il a écrit en 2008 un livre qui s'appelle Crazy Love. Bouleversé par un Dieu irrésistible, en français, Francis Chan. Et nous l'avons lu en été, en 2012-13, avec les enfants pendant les vacances. Pendant l'année, on n'a pas le temps de lire avec eux. Mais là, ils étaient tous ados et on a lu un chapitre et ça nous a, chaque jour, un chapitre de ce livre, Crazy Love, amour fou de Dieu dans ce qu'il a fait pour nous. Et la réponse que l'on apporte à cet amour fou, à ce Crazy Love manifesté à la croix et par la résurrection de Christ. Et notre réponse est parfois tiède par rapport à cet amour incroyable, infini. Alors ce qui est bien avec Chan, Francis, c'est que jamais on ne sent de jugement sur soi ou sur l'Église en général, simplement une question, quelle réponse apportons-nous à cet amour incroyablement fou de Dieu en Jésus-Christ? Quelle réponse? Et dans ce livre, il reprend cette lettre à Laodicée sur la tiédeur et cette histoire d'eau tiède, et il nous fait un profil du tiède. Et je vous laisse quelques extraits choisis et je prends les plus soft parce que Francis Chan est un genre de prophète. Il rentre dedans. Et parfois ça nous fait du bien. Alors je me cache derrière lui un petit peu pour vous présenter ces choses. Je l'avoue, je le confesse. Mais voilà, les gens tièdes, les personnes tièdes sont des personnes... Ah ouais, voilà, il a une chouette bouille, hein, Francis Chan. Une personne qui se considère comme suffisamment croyante pour aller au ciel. Suffisamment. C'est bon. Qui aime leur prochain, mais se focalise surtout pour ceux qui les aiment en retour. Un amour conditionnel. Leur amour est très sélectif. Ils préfèrent lorsqu'ils sont devant un choix, adopter ce qui est populaire plutôt que ce qui est juste. On fait ce que les autres font. Ils sont prêts à servir Dieu et leur prochain à condition de poser les limites. Et les limites arrivent vite. Peuvent être généreux pour l'Église, ou la mission, ou les œuvres, aussi longtemps que cela n'empiète pas sur leur train de vie. Et vous savez, Francis Chan, il est pasteur d'une grande église en Amérique, en Californie, et vous savez qu'on parle des méga-churches, là, qui sont... Enfin, j'y étais, c'est pas une légende, il y a de la moquette partout, c'est somptueux, etc. Mais lui et son église, ils ont décidé de construire un amphithéâtre à ciel ouvert. Dehors. Pas de frais. Alors c'est la Californie, mais ça peut cailler quand même en Californie. Hein. Il peut faire 15 degrés quand même, ou 10, 12 comme ici. Hein. Et on a froid. Mais ils ont préféré construire ça plutôt qu'un truc luxueux, construire ça pour donner l'argent à des œuvres sociales, pour que des gens puissent avoir des couvertures et des maisons. Donc c'est pas juste un gars qui dit des choses comme ça, mais c'est un gars qui fait aussi, ce Francis Chan. Bon, générosité, oui. Agissent toujours avec précaution. Ce sont des adeptes du principe de précaution. Se soucient constamment de leur vie. Sont esclaves du dieu de la sécurité et qui les empêche de prendre des risques. Sont touchés par des témoignages de ceux qui entreprennent des choses radicales pour le Christ, mais ne se sentent pas concernés. Eux-mêmes n'agissent pas. Ils présument que cela concerne des chrétiens extrêmes et non pas ceux qui figurent comme eux dans la moyenne. Alors ça aussi, ça déménage. Je vous avais dit, Francis Chan, il est un peu un prophète, là. Il appuie là où ça fait peut-être mal. Mais il précise quand même que ce profil n'est pas là pour se mesurer aux autres et entrer dans une sorte d'étalonnage, meilleur chrétien que d'autres, etc., chrétien plus spirituel que d'autres, non, pas du tout. Il précise aussi que personne ne présente le profil type, n'a tous ses points. Mais il précise aussi, et ça c'est la bonne nouvelle, enfin non, ça c'est pas la bonne nouvelle, que personne n'est immunisé contre quelques-unes de ces formes de tiédeur. Mais là aussi, et c'est là qu'arrive la bonne nouvelle, que personne n'est dans une situation désespérée par rapport à la tiédeur. Il n'y a pas de tiède qui ne puisse être réchauffé. Il n'y a pas de tiède qui ne puisse être ébouillanté. D'ailleurs, un peu plus loin dans son livre, Crazy Love, il nous fait le profil du bouillant, qui fait plaisir à lire ce profil, que je ne vous lirai pas. Mais le bouillant, je vous donne un exemple, le bouillant c'est le type de cette parabole de Matthieu 13. C'est l'histoire d'un type qui trouve un trésor dans un champ. Mais selon les lois d'Israël à l'époque, s'il n'est pas propriétaire du champ, le trésor ne peut pas lui appartenir. Alors ce type fait une chose, il vend tout ce qu'il a pour acheter le champ. Et pour se rendre propriétaire du terrain, et donc du trésor. Alors ce gars-là, il ne va pas faire dans la demi-mesure. Il ne fait pas en demi-teinte, il va être radical, un peu extrême, il va être crazy ce gars. Il vend tout ce qu'il a. Et Jésus ne dit pas ce que contient le trésor. Est-ce que c'est le trésor de Rackham le Rouge ? En fait, le trésor c'est le royaume, en fait, on le sait. Mais ce qu'il nous dit, c'est que le gars, non seulement il y va à fond, mais aussi qu'il le fait tout joyeux. Oh, il le cache, s'en va, il vend tout ce qui est... Ah ben, moi, dans ma version, à vérifier. Mais dans une autre version, c'est tout joyeux. Il... hein? Ah, Débordant de joie, pardon, bah oui, c'est parce que je. Et il est marqué en même. Si, si, il y est, débordant de joie. L'accent. Il y a de la joie à être crazy. Il y a de la joie à être fou, extrême, pour Dieu. Alors, on a tous envie d'être bouillant, n'est-ce pas? Moi le premier, moi j'ai envie d'être bouillant. Mais comment l'être? Comment le devenir? Et la lettre, comment passer du tiède au bouillant? Et la lettre à l'Odyssée, lettre laisse entrevoir la possibilité d'un changement. Et ce changement, il est noté au verset 19. Et je lis dans d'autres versions, « Montre donc plus d'ardeur et change ta vie !» C'est la métanoïa, la conversion. Et convertis-toi, dit Jésus. Change, et on l'a traduit, change, parce que c'est le premier sens de ce mot, convertir. Changer radicalement, dit une autre version. Mais la nouvelle Bible au Sommaire dit, passionne-toi donc, et change radicalement, passionne-toi donc. Alors, pas de recette, comment faire? Pas de recette, mais deux suggestions de la parole. S'examiner soi-même. Et on le dit tous les 15 jours quand on fait la Sainte-Seine ici, il y a un examen personnel, que chacun s'examine soi-même et qu'ainsi il mange et de ce pain et boive de la coupe. Mais il y a un autre examen personnel et Paul en parle dans 2 Corinthiens 13, 5. Mettez-vous donc vous-même à l'épreuve. Examinez votre vie pour voir si vous vivez dans la foi. Oui, faites un peu votre examen de conscience. Ne reconnaissez pas que Jésus-Christ est parmi vous. Intéressant, ça. Reconnaître Jésus. À moins que cet examen ne tourne à l'échec et que votre qualité de chrétien ne résiste à l'épreuve. C'est aussi des textes à lire de temps en temps. Un examen personnel. Alors, pas une introspection où on essaie de débusquer le moindre petite chose qui n'irait pas. Une introspection maladive et négative qui est aussi une sorte de nombrilisme, hein, où on est centré sur soi. Non, pas ça. Mais un examen serein, confiant, honnête, devant Dieu, et peut-être à faire ensemble avec un groupe d'amis, au groupe de maison par exemple, pour voir si on est dans la foi, en Jésus-Christ, si on est bouillant pour lui, s'il n'y a pas des écrans de fumée qui sont apparus au cours des années, des habitudes qui se sont installées, des trompe-l'œil qui sont apparus dans notre vie chrétienne. On a besoin d'un collyre aussi, pour voir plus clair, pour améliorer la mise au point. Et puis deuxième suggestion pour passer du tiède au bouillant, ouvrir la porte. Il était déjà question d'une porte ouverte pour l'église de Philadelphie, mais là, il y a une personne devant, et il est à l'extérieur, et il frappe. C'est Jésus lui-même qui dit, voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je dînerai avec lui. Et lui, avec moi, une réciprocité, une fête, le repas du soir, à l'époque et encore peut-être aujourd'hui. Et alors, c'est un texte qui est souvent utilisé pour amener des gens à faire le pas de la foi. On en a parlé il y a 15 jours au Parcours Alpha. Le titre, c'était « Comment savoir si j'ai la foi ?» Et on a parlé d'Apocalypse 3.20 et on a montré cette image d'un peintre qui s'appelle Hunt. Et cette peinture est exposée dans une église, l'original, de Londres. Et on voit le Christ, et ça s'intitule « La lumière du monde ». Et effectivement, vous voyez la lanterne, c'est Christ qui apporte la lumière. Mais il frappe à une porte qui est couverte de lierre, qui n'a pas été ouverte depuis longtemps. Et le détail qui est intéressant, c'est de voir, je ne sais pas si vous le voyez, il aurait fallu faire un zoom sur... Il n'y a pas de poignée à la porte à l'extérieur. Il n'y a pas de poignée pour Jésus pour ouvrir la porte, un peu de force, non? La poignée est à l'intérieur. Et c'est celui qui est à l'intérieur, qui entend Jésus frapper à la porte, d'ouvrir la porte. C'est une belle image. Mais ce qui est intéressant de replacer Apocalypse 3:20 dans son contexte de la lettre à Laodicée, c'est qu'elle s'adresse d'abord à des gens tièdes. Alors, s'agit-il de personnes qui n'ont pas jamais été véritablement chrétiennes, qui se sont toujours crues riches et autonomes en pratiquant la religion chrétienne, qui sont à l'église de Laodicée peut-être ou ailleurs, sans y être vraiment, qui y sont à l'église, qui vivent leur vie chrétienne mais du bout des doigts ou du bout du cœur. Ils ont besoin, ces gens-là ont besoin d'ouvrir la porte à Jésus lui-même, non pas aux valeurs chrétiennes, à transmettre aux enfants ou à l'histoire du protestantisme, mais à Jésus avec la force de l'Évangile, de la bonne nouvelle de l'Évangile, la puissance de l'espérance en Jésus-Christ. Ouvrir la porte au Christ lui-même pour qu'il fasse la fête, que ta volonté soit faite avec lui, avec elle. Ou s'agit-il de personnes qui ont fait le pas de la foi à un moment, qui se sont données à Christ, mais qui, comme l'eau de l'aqueduc qui va de Hiérapolis à Laodicée, se sont attiédies durant le trajet? On rejoindrait alors la lettre à l'église d'Éphèse, celle qui a perdu son premier amour, cet amour qui s'est attiédi au fil des années. Et la porte qui aurait pu être ouverte à un moment se serait fermée peu à peu, parce que il a fallu être réaliste un moment, même dans sa vie chrétienne, soumis à la réelle politique, la politique de la réalité. Donc on peut pas vivre l'Évangile dans la réalité. Et puis l'Évangile qui vient se heurter à la réalité de mon péché, de ma faiblesse, de mon inertie intérieure. Alors, la porte se referme doucement et couine sur ses gonds. À quel groupe s'applique Apocalypse 3:20? Faut-il choisir entre les deux groupes? Ben non. Jésus frappe à la porte et il frappe à ma porte. À qui s'adresse Apocalypse 3:20? À moi, certainement. Quelle que soit notre tiédeur, quelle que soit notre température intérieure, Jésus se tient à la porte et il frappe. Et si on ouvre la porte, il entre et toute la chaleur vient avec lui. Et on est bouillant pour lui. Une chaleur à la fois humaine et divine, une chaleur irrésistible. Moi, j'étais dans cette petite maison des Pyrénées la semaine dernière. Il commençait à faire un peu frisquet, les sommets étaient un peu enneigés et il pleuvait un peu, pas trop. Il faisait 10, 12, 10, 11 degrés quand même. Et puis, je me couche là et j'arrive pas à dormir. J'avais plein de choses dans ma tête là, et piqué par les moustiques. Et puis, vers 1h du matin, je me lève, j'en peux plus, et pour changer mes idées, j'ouvre la porte. Et là, il faisait 20 degrés, nuit noire, 20 degrés, mais le vent du sud, le vent d'Espagne, le fun, un bon mot pour le Scrabble, le fun soufflait. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai ouvert la porte, j'ai laissé la porte ouverte pour que la chaleur rentre, parce qu'il faisait plus froid dans la maison qu'à l'extérieur. Ouvrir la porte pour laisser la chaleur de Dieu réchauffer notre intérieur. Oui, alors on pourrait ouvrir la porte à celui qui réchauffe notre intérieur d'une chaleur qui rayonne jusque dans l'éternité. Nous pourrons peut-être le faire, chacun pour sa part, à un moment. Et pour terminer, j'aimerais modifier les paroles des disciples dans l'évangile de Jean. Au lieu de « vers qui irions-nous », c'est « parce que tu as les paroles de la vie éternelle », vous vous souvenez, dire « à qui d'autre ouvririons-nous la porte ? Il a les paroles de la vie éternelle, il a les paroles de la vie abondante, il a les paroles de la vie, la vraie, celle qui nous est destinée de toute éternité. Pour lui et par lui, nous voulons être bouillants, chaud bouillants. Amen.